Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, aussi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et nous pourrions lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Moi, je voudrais vous parler de Dieu, mais ce serait bien présomptueux de ma part d'être complet sur le sujet, vous vous en doutez bien. Je vais vous dire des choses que vous savez très bien, certainement, mais nous allons essayer d'effleurer le sujet en citant un certain nombre de textes, de passages bibliques. Au commencement, Dieu. Littéralement, en premier, Dieu. Ce sont les premières paroles, bien sûr, du livre de la Genèse. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence. Et la parole, elle, ne fait que confirmer que Dieu existe, son existence et son œuvre. Alors, une première pensée, Dieu est le grand maître du temps et des temps. Au commencement, Dieu, au commencement. Par l'intelligence, les humains ont compris qu'ils vivaient dans un espace-temps qui était réglé par la rotation de la Terre et sa révolution autour du Soleil. Bon, vous savez que la Terre a fait 40 000 kilomètres de circonférence, elle fait ça en 24 heures, résultat 1666 km/h. C'est une certaine vitesse. Dans sa révolution, 940 millions de kilomètres, si vous divisez ça par 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 47 secondes, puis par 24 heures, vous allez obtenir une vitesse de croisière de 107 000 km à l'heure, à peu près, environ. Voilà. Et quand vous savez que toute notre galaxie, notre système solaire est en mouvement, et qu'il avance dans l'espace interstellaire à 805 000 km/h, Dieu est grand. Mmh. Amen. Dieu est grand. Hein, vous n'avez même pas mis votre ceinture de sécurité?
Non.
Vous vous rendez compte? Et puis, quand on sait qu'avec nos plus puissants télescopes, on en voit toujours de plus en plus et qu'on n'est pas arrivé au bout de cet univers infini que Dieu a créé. Gloire au Seigneur! Mais comment comprendre avec l'intelligence qu'il y ait une éternité? Comment comprendre qu'il y a un Dieu éternel? C'est tout le problème. Ecclésiaste 3.11 nous dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Un jour, il y a quelqu'un qui voulait imager l'éternité. Alors, il avait pris une image, il avait dit « Imaginez la terre, une boule d'acier. » Une boule d'acier grosse comme la terre. Et qu'il y ait constamment une mouche qui tourne dessus. Il dit, quand la boule sera usée, l'éternité ne sera pas finie. C'est impressionnant. Hein. Mais par la foi en la parole de Dieu, bien sûr, nous avons la révélation du Dieu éternel. Le psaume 90, Moïse peut dire, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors une deuxième pensée, bien sûr, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Même les incroyants, nous le savons, sont perplexes à ce sujet. Vous connaissez la réflexion de Voltaire qui disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Bien sûr. Hein. Le monde nous appelle souvent des créationnistes ou quelque chose comme ça. On est catalogués. Hébreux 11, 3. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim créa. Alors on m'a dit qu'Elohim, c'était un pluriel. C'est le Dieu unique et pluriel à la fois. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, on trouve différents noms de Dieu. Enfin, celui qui apparaît le plus, c'est une séquence de quatre chiffres, hein, que vous connaissez bien, YHWH. Et c'est traduit par certains par Jéhovah, et d'autres traduisent par Yahvé. Il paraît que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus juste d'Yahvé, mais pas, il n'y a pas de voyelle. Hein. Il n'y a pas de voyelle. Alors ces quatre lettres, les Juifs s'imposaient, eux, de ne pas les prononcer. On trouve d'ailleurs que ce tétragramme, on le trouve dans la Torah 1400 fois, je crois, quelque chose comme ça. On trouve le tétragramme la première fois dans Genèse 2, chapitre 4, qui est d'ailleurs suivi d'Elohim. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre. Et des cieux, autrement dit, lorsque Yahvé Elohim fit une terre et des cieux. Lorsque Yahvé Elohim. Jérémie 10:10, l'Éternel est Dieu en vérité, autrement dit, Yahvé est Elohim en vérité. Et Deutéronome 6:4, écoute Israël, vous connaissez ce passage, il est central, bien sûr. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Littéralement, écoute Israël, Yahvé Elohim est le seul Yahvé. C'est l'un des quatre versets que les Juifs d'ailleurs écrivaient, je crois, dans leur phylactère. On peut dire, exprimer cette pensée, le Dieu que tu adores comme ton Dieu, sous le nom de Yahvé, celui qui est le seul être qui possède l'éternité. Qui possède l'éternité. Alors toutefois, bien sûr, dans la parole de Dieu, on peut remarquer quand même que Dieu se révèle à nous en trois personnes éternellement distinctes, mais d'une même essence divine. On parle pour certains de trinité, d'autres parlent de triunité, bien que ces mots ne soient pas dans la parole de Dieu. Dieu se révèle à nous en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit, vous apprend rien. C'est bien. Notre intelligence, il faut admettre qu'elle défaille. Elle défaille car nous sommes en quelque sorte finis. Enfin, ce n'est pas que nous soyons morts. Hein. On est finis dans le sens où nous avons nos limites et que Dieu est infini. Lors de la création, on voit que Dieu, le Saint-Esprit, se trouvait au-dessus des eaux. Quelqu'un a dit qu'il couvait en quelque sorte l'œuvre de création, et nous voyons, bien sûr, comme nous avons lu tout à l'heure, en ce qui concerne Dieu le Fils, la parole, au début de l'évangile de Jean, trois affirmations. Trois affirmations concernant Dieu le Fils, celui qui est appelé l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Au commencement était la parole. Commencement était la parole. Celui qui a été manifesté comme la parole faite chair existait, bien sûr, avant toute chose. Joseph l'appellera Jésus conformément aux instructions de l'ange. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est son unité avec le Père. Jésus a pu dire « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ». Il a dit aussi « Moi et le Père, nous sommes un ». Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, il s'agit bien sûr de sa divinité. De sa divinité. Nous avons besoin d'une connaissance qui va beaucoup plus loin que de savoir que Dieu existe. Nous le savons bien. Nous avons besoin de connaître, dans le sens le plus profond du verbe, celui qui a été envoyé par le Père, celui qui est venu nous révéler le Père, Jésus. Il l'a dit d'ailleurs, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. 1 Jean 2, 23 nous dit aussi que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors nous sommes là devant le problème des religions qui n'acceptent pas le Fils de Dieu et qui veulent aller au Père. Comment voulez-vous? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, la chose est très claire. Alors, Dieu parlait avec l'homme dans le jardin d'Éden, c'était extraordinaire quand même, cette rencontre le soir du Créateur avec sa créature. Ça devait être quelque chose de merveilleux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, voilà, Dieu qui parlait avec l'homme dans le jardin d'Éden, finalement il s'est caché, il s'est caché. Regardez Ésaïe 64, 7. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Alors nous avons été créés corps, âme, esprit. Mais l'esprit de l'homme irrégénéré est dans un état de mort à cause du péché. Il ne peut, en quelque sorte, recevoir la révélation de l'Esprit de Dieu, et même, elle n'a aucun sens pour lui. Elle n'a aucun sens pour lui, c'est ce qui est écrit. 1 Corinthiens 2, 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, même en s'efforçant de croire qu'il y a un Dieu, le vieil homme pécheur ne peut avoir qu'une connaissance superficielle, une connaissance intellectuelle qui ne va jamais l'amener à la repentance ni à l'obéissance de la foi. Il faut que le voile soit ôté, il faut que le voile soit ôté et que l'horreur de son péché apparaisse. C'est la condition pour se convertir. Amen. Si on n'est pas conscient du poids du péché, si on n'est pas conscient du péché qui nous accable, si on n'est pas conscient de cette horreur du péché, eh bien on ne va pas se jeter aux pieds du Seigneur, on ne va pas se jeter dans ses bras. Mais quand on en prend conscience, on jette dans ses bras une pardon Seigneur. Amen. Alors c'est seulement l'homme nouveau qui manifeste la vie nouvelle, qui accède à une révélation de Dieu. J'ai remarqué cette traduction de Colossiens 3:10, de parole vivante. Vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son créateur et s'achemine vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Comment ça peut se faire? Alors cette connaissance, elle est révélée progressivement dans la communion du Seigneur, à l'esprit de celui qui est né de nouveau, qui est né en esprit et qui a une vie spirituelle. Alors il faut remarquer que une certaine religiosité, on pourrait dire, oublie les perfections divines et conduit l'être humain à se focaliser sur ce qui lui convient mieux dans l'Évangile et en ce qui concerne la justice parfaite de Dieu, il passe à côté. Étant charnel, il va parler d'amour, il va en parler d'une manière très sentimentale, oubliant et ne réalisant pas la parfaite justice divine et le rayonnement, on pourrait dire, ineffable de la sainteté de Dieu. Ineffable dans le sens, on ne peut pas le dire avec des mots, c'est pas possible. C'est tellement grand, tellement merveilleux. Alors nous remarquons dans l'Épître aux Philippiens ce que dit l'apôtre. On dit quand même, Paul, tu exagères. Je regarde toutes choses, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ. Nous avons chanté tout à l'heure, connaître Christ et l'aimer sur la terre, c'est le bonheur de l'heureux racheté. Ah, les Philippiens, ils auraient quand même pu dire à Paul, bon, écoute, faut pas exagérer, tu charries, Paul, ça va pas. Le Seigneur, il t'a arrêté sur le chemin de Damas. Hein, tu as fait une rencontre avec lui, puis après, tu as fait des expériences merveilleuses. Tu as été ravi jusqu'au troisième ciel, imagine-toi. Tu as entendu des choses que tu peux même pas dire, qui n'ont même pas permis à un homme d'exprimer. Vous savez, et vous l'avez certainement réalisé aussi, plus on s'approche du Seigneur, plus on a soif de lui, et plus on réalise qu'on ne connaît rien. Et plus on réalise qu'on ne connaît rien, on ne connaît pas grand-chose. C'est pour ça qu'on comprend que l'apôtre Paul, qui a fait ces expériences extraordinaires, il avait soif de Christ. Hein, et il disait, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ, il sentait bien qu'il y avait autre chose encore à découvrir, qui était encore plus grand que ce qu'il avait vu jusque-là. C'est quand même extraordinaire. La connaissance de Dieu, du Dieu saint, du Dieu qui est amour, va m'amener à la connaissance de mon état d'imperfection, bien sûr, et va me conduire à rechercher la sanctification, sans laquelle, bien sûr, personne ne verra le Seigneur, et va m'amener à désirer manifester cette dimension d'amour qui surpasse tout ce qui pourrait être sentiment humain. La connaissance du Dieu parfait va me conduire à désirer, à être un homme fait, un homme accompli devant Dieu. Jésus a dit quelque chose, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, moi les bras m'en tombent. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, dis donc. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Rendez compte. La prière d'Augustin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Saint-Augustin. Bon, on dit comme vous voulez. Donne ce que tu ordonnes, Seigneur. Donne ce que tu ordonnes. Et ordonne ce que tu veux. Ben oui, tellement que tu donnes ce que tu ordonnes, maintenant après tu peux ordonner tout ce que tu veux. Sinon, j'y arriverai pas. Voilà. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors, qui est Dieu ? Qui est l'Éternel ? Que nous dit encore la parole de Dieu à son sujet ? Moi, je suis étonné de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Alors, les disciples, eux, ils étaient étonnés de ce qu'il parle avec une femme. Ils sont encore plus étonnés qu'il parle avec une Samaritaine. Moi, ça ne m'étonne pas. On n'a pas la même culture quelque part. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. C'est quand même absolument extraordinaire. Hein. Vous vous rendez compte ? La Samaritaine, il lui a révélé qu'il était le Messie. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait compris ça, je crois qu'il n'y avait personne pratiquement. Et il se révèle à cette femme, il lui dit qu'il est le Messie. Mais il lui révèle encore autre chose. Il lui révèle l'essence même de Dieu et la nature de l'adoration véritable. Vous connaissez ce passage, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Amen. Et en vérité. Alors, il serait donc insensé de faire de Dieu une image en or, en argent, ou je ne sais pas en quoi, en pierre. Quelle folie, dans le fond, a pu saisir le peuple d'Israël lors de l'épisode du veau d'or. Soyons conscients qu'il est tout aussi stupide, idolâtre, disons, de s'en faire une image à dimension terrestre dans notre tête. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ça, parce qu'on a toujours tendance, vous savez, à ramener tout à nous-mêmes, à imaginer Dieu comme un brave homme avec une grande barbe, certains, c'est ça, hein, c'est dommage. Hein. Il est si grand, notre Seigneur, si merveilleux, si infini. Ce serait idolâtre tout à fait que de s'en faire une image dans notre tête. Il est une personne, c'est vrai, il possède l'intelligence, la sensibilité, la volonté. Et l'homme, qui n'est pas le produit d'une évolution, contrairement à ce que disent les incroyants très souvent, hein, il possède en quelque sorte les éléments de la personnalité divine, intelligence, sensibilité, volonté. Alors, l'Épître aux Colossiens nous donne les clés pour pénétrer le mystère de Dieu. Parce que quand même, il reste un mystère. Pas facile pour nous humains de comprendre qu'il puisse y avoir un Dieu qui se manifeste en trois personnes et qui soit réellement un. Alors, Colossiens, chapitre 2, verset 1er. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à la Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. 1. Qu'ils soient unis dans la charité. 2. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pourquoi ? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Rempli de consolation. Est-ce qu'on peut vraiment être rempli de consolation sans être rempli du Saint-Esprit ? C'est la question que je me pose, parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Vous serez d'accord avec moi ? Bien sûr. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, remplis de consolation. Alors, unis dans la charité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça m'interpelle, moi. Parce que, en fait, il ne s'agit pas de moi seulement, là. Unis dans la charité, ça nous parle de l'Église, là. Non ? Ben oui. Ça veut dire que, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, nous avons besoin aussi d'être ensemble. Et c'est ensemble qu'on va découvrir aussi le mystère de Dieu et cette grande vérité, hein, c'est ça, hein, le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité, uni dans l'amour, c'est indispensable, hein, c'est écrit, et enrichi d'une pleine intelligence, alors ça c'est la grâce de Dieu bien sûr, c'est l'action aussi du Saint-Esprit, littéralement pour la connaissance du mystère de Dieu et du Père et de Christ. Et j'ai remarqué Chouraki qui a traduit pour la pleine pénétration du mystère d'Elohim. Pour la pleine pénétration du mystère d'Elohim. Alors au travers de l'œuvre de Jésus, nous voyons bien sûr son unité avec le Père et avec le Saint-Esprit. Nous sommes bientôt à Noël. Eh oui, nous sommes bientôt à Noël. Mais avant la venue de Jésus sur cette terre, il y a eu un dialogue dans le ciel. Il s'est passé quelque chose, hein, entre le Père et le Fils. L'Épître aux Hébreux nous lève un peu le voile. Hébreux 10, Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Aïe, aïe, aïe. Nous avons besoin, nous aussi, à l'image de Christ, de nous présenter devant le Seigneur et dire « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté, non pas mes quatre volontés. » Vous savez, comme on est humain, hein, je crois que personne n'est au-dessus du lot au point de dire « Non, moi je fais que la volonté de Dieu, je ne me trompe jamais. » Ça nous est arrivé de prendre notre volonté pour celle du Seigneur. Vous n'êtes jamais arrivé à vous ? Oui, oui. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur, afin qu'il nous révèle réellement sa volonté, qu'il nous donne la force pour l'accomplir. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant la Pentecôte. Vous recevrez une grande force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, bien sûr, lors de la conception de Jésus, le Saint-Esprit, bien sûr, aussi est à l'action. Hein. L'ange a dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Moi, ça, je rapproche un peu ce passage de la création où l'Esprit était là et au-dessus, qui en quelque sorte... couvait, si on peut dire, bien qu'il y ait une pensée de mouvement quand même, dans le sens mouvait au-dessus des eaux. Mais là, on voit que le Saint-Esprit vient à nouveau, et le Saint-Esprit, hein, te couvre, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça, c'était la promesse à Marie. Et puis, lors du baptême de Jésus, bien sûr, nous avons remarqué que le Saint-Esprit est venu sur Jésus, descendu sous l'apparence d'une colombe. Alors certains font des représentations de colombe, je ne sais pas si c'est bien bon. Il ne s'agit pas de représenter Dieu, même pas l'Esprit. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il nous faut être très prudents sur toutes ces choses, hein, et nous laisser conduire par le Seigneur. L'Esprit est descendu comme une colombe et la voix du Père s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. » Si on réalise, bien sûr, l'unité divine dans l'œuvre de la rédemption, quand on lit ce passage de 2 Corinthiens 5, 19, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelle grâce et quelle responsabilité. Et nous avons besoin toujours que l'Esprit nous conduise, nous éclaire, nous donne d'accomplir ce que le Seigneur, avec la force qu'il nous donne, d'accomplir ce qu'il nous demande. Nous sommes là pour pousser les gens qui nous entourent à être réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Que de monde, quand je pense à tous ces gens dans cette agglomération rouennaise, vous rendez compte, la multitude de gens qu'il y a. Alors il y en a beaucoup qui ont déjà entendu, qui sont déjà venus dans des assemblées. Que le Seigneur leur rappelle qu'ils sont déjà venus. Vous savez, la parole, c'est une semence. Une semence d'une extrême bonne qualité. Je ne sais pas si je l'ai raconté, j'ai rencontré un brave homme dans la rue Le Canuet, il y a un an, deux ans. Et il me dit, mais est-ce que vous êtes Monsieur Pixeux ? J'ai dit, bien sûr. Il me dit, je vous ai entendu au temple de Darnétal. Vous avez prêché sur tel sujet. Il me dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me raconte, cet homme-là? Ça faisait au moins 20 ans, 25 ans, je sais pas. J'étais pas retourné au temple dans l'étal. La parole, elle était restée dans son cœur. Il se souvenait du message. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Moi, ça m'a encouragé un peu, quand même. Je dis, Seigneur, on s'aime, mais c'est toi qui fais croître. Bien sûr. Alors, Jésus nous a enseigné de prier le Père en son nom. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a un avocat à la droite du Père, qu'on a un intercesseur, Jésus, prie pour nous. Je crois que dans nos moments difficiles, nos moments de peine, nos moments où c'est lourd, réfléchissons un petit peu à ça. Jésus, amen. Levons-nous, nos yeux, il est là, il est à la droite du Père, il intercède pour moi. Ah, Seigneur, ah bah oui, tu pries pour moi. Amen. Ça me fait du bien. Jésus-Christ, le juste, il est là-haut, à côté du Père. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est aussi un intercesseur. C'est ce qu'a dit Jésus. Il sera où? En vous. Et en nous, il intercède par des soupirs inexprimables. C'est en nous, hein? Ah oui? Ah oui? Alors, on a au ciel, on a un intercesseur extraordinaire. C'est le Seigneur Jésus. Et sur la terre, nous avons l'Esprit. Amen, nous avons reçu l'Esprit. Et l'Esprit intercède en nous. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi demander dans nos prières. On est quelquefois un peu ennuyé. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Gloire à Dieu. Mais ça nous fait du bien de le savoir et de nous en rappeler. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps, de toute façon je vais arrêter. Hein. Nous savons que Dieu, il est omniprésent. Vous savez, il est présent en tout lieu. Bien sûr. Alors, quoique nous allons à un endroit, un autre, nous savons qu'il est toujours là. Le Seigneur n'est jamais loin, il nous connaît, il nous voit. Il est omnipotent, vous savez qu'il a toute la puissance. Il est omniscient, il a toute la connaissance, toute la science. Et il y a quelque chose qui me fait du bien, il est immuable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Vous voyez, les gens autour de nous, quelquefois, sont gentils avec vous, puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne change pas, il est toujours le même. Il nous aime d'un amour éternel, infini. Gloire à son nom. Moi, je termine. Je termine par 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Amen.
Amen. Amen.